VOA Afrique.
Un pape, trois villes, des foules immenses, une visite historique, le souverain pontife pour la première fois de sa vie sur le sol américain. Jacques Aristide avec vous, Washington Forum est consacré cette semaine au périple du pape François aux États-Unis.
Such cooperation is a powerful resource.
Une telle coopération est une ressource puissante dans la lutte pour éliminer les nouvelles formes d'esclavage, d'injustice sociale qui peuvent être dépassées seulement au travers de nouvelles politiques et de consensus social.
Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. Dans quelques minutes, nos invités nous décortiqueront ce voyage du pape François aux États-Unis. Un séjour marqué ce jeudi par son discours au Congrès. Vous venez de le voir, une première absolue pour un pape. Pour nous en parler justement, nous nous rendons au Capitol Hill où se trouve Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas, quel a été le message du pape ?
Bonsoir Jacques. Eh bien, écoutez, le pape, en tout cas, il a été chaleureusement écouté ici. Il faut dire qu'il y avait environ 500 membres du Congrès qui étaient venus pour l'écouter. À noter également la présence de Joe Biden, le vice-président américain. Alors, le pape, je le disais, il a été chaleureusement accueilli. Il faut dire qu'il a prononcé un message plutôt consensuel. Il n'a pas vraiment cherché la polémique. Il a tout d'abord, Jacques, salué la démocratie américaine. Il a cité notamment l'ancien président Abraham Lincoln ou encore Martin Luther King. Le souverain pontife a d'abord exhorté les élus américains à utiliser l'économie, la finance et la technologie au profit de la lutte contre les inégalités. Je vous propose de l'écouter.
Such cooperation is a powerful resource.
Une telle coopération est une ressource puissante dans la lutte pour éliminer les nouvelles formes d'esclavage, d'injustice sociale qui peuvent être dépassées seulement au travers de nouvelles politiques et de consensus social.
Voilà pour cette première déclaration du pape. Autre sujet abordé par le souverain pontife, il a mis en garde contre tous les extrémistes qui utilisent la religion. Une allusion à peine voilée au groupe État islamique. On écoute le pape François.
Our world is increasingly a place of violent conflict.
Notre monde est de plus en plus le théâtre de conflits violents, d'atrocités brutales et haineuses, même commises au nom de Dieu et de la religion. Nous savons qu'aucune religion n'est immunisée contre les formes individuelles de fantasmes ou d'extrémismes idéologiques.
Voilà, et la partie du discours du pape François que tout le monde a retenu ici, elle concerne l'immigration. Il a beaucoup évoqué la crise actuelle en Europe, la crise migratoire avec ces centaines de milliers de réfugiés qui tentent de gagner l'Europe. Le pape a fait une allusion à sa propre histoire, puisqu'il est descendant d'immigrés italiens. Il a surtout rappelé aux élus américains que la majorité des Américains ont des ancêtres qui ne sont pas nés sur le sol américain. Alors, cette référence à l'immigration est aussi importante, Jacques, puisque vous le savez que 2016 sera une année électorale. On parle beaucoup d'immigration clandestine parmi les républicains dans le cadre de la primaire pour cette élection présidentielle de 2016. Le pape a surtout appelé tout le monde à faire preuve de compassion.
Do unto others as you will have them do unto you.
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cette règle nous montre la voie. Il faut traiter les autres avec la même passion et la même compassion que nous souhaiterions pour nous-mêmes. Donnons aux autres les mêmes possibilités que celles que nous recherchons.
Voilà Jacques, le dernier thème qui est vraiment typiquement américain, le pape François a demandé l'abolition totale de la peine de mort. Vous le savez Jacques, ici aux États-Unis, notamment dans les États du Texas ou de la Floride, la peine capitale est encore appliquée. Le pape François a tout simplement demandé son abolition. On l'écoute.
Recently, my brother bishops...
Récemment, mes frères évêques ici aux États-Unis ont renouvelé leur appel pour abolir la peine de mort. Non seulement je les soutiens, mais j'encourage tous ceux qui sont convaincus qu'une juste punition ne doit jamais exclure la dimension d'espoir et de réhabilitation.
Voilà Jacques, et on rappelle que le pape François achève sa visite ici à Washington. Ce jeudi après-midi, il s'envolera pour New York. La dernière étape de son voyage, ce sera Philadelphie sur le sol américain.
Oui, nous l'avons compris Nicolas, discours plutôt engagé. D'ailleurs, il y a certains républicains qui avaient dit qu'ils allaient boycotter cette intervention. Alors Nicolas, quelles sont les réactions que vous avez pu recueillir ?
Alors justement, côté républicain, on est plutôt satisfait puisque le pape François a beaucoup parlé de la famille. Il a dit qu'actuellement, la famille était en danger. Certains y ont vu une référence notamment au mariage homosexuel. Autour du Capitole, cette intervention était retransmise sur des écrans de télévision et les dizaines de milliers de personnes qui ont pu la suivre étaient vraiment ravis. Un pape toujours très proche de la population, avec un pape très engagé, vous l'avez dit, qui parle notamment des thèmes sociaux, des termes évidemment de l'inégalité des revenus et également l'inégalité des niveaux de revenus. On l'a vu avec la référence des migrants. Donc pour le moment, ce thème du pape qui a été ici présent au Congrès a été très apprécié, d'autant, et c'était craint notamment par les républicains, il n'a pas beaucoup parlé de l'environnement, beaucoup craignaient qu'il parle justement du changement climatique et du fait que le Congrès américain doive agir beaucoup plus fermement sur la question. Il l'a évoqué, mais très brièvement, donc toutes les susceptibilités ont été ménagées.
Merci Nicolas. Nicolas Pineau en direct du Capitole. Il est l'heure maintenant d'accueillir mon invité sur ce plateau, Anne-Elisabeth Giuliani, chercheure à Georgetown University. Anne-Elisabeth, on l'a compris, plus que tout autre rendez-vous en fait, l'intervention du pape au Congrès américain est vue comme l'un des sommets de son périple américain. Le souverain pontife a souvent dénoncé les excès du capitalisme, de la finance, du dieu argent. Il défend les plus petits et les pauvres, les laissés pour compte, et aussi l'environnement. Bon, il n'en a pas beaucoup parlé, mais dites-nous, le pape a-t-il délivré ce message, ce combat dont il a fait sienne devant les élus américains ?
Certainement, il nous a donné un discours d'une grande cohérence. J'ai entendu le mot consensuel, je ne suis pas sûre que tout était si consensuel que ça. Il a eu des mots très forts en parlant du silence honteux et coupable pour les ventes d'armes. Il a été très courageux, mais c'est la façon dont il a rassemblé tous. Il n'est pas messager de lui-même. Alors il a une immense liberté quand il parle de ces sujets. Il nous rappelle tout le temps, ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine sociale de l'Église. Et il a ramassé tout ce qu'il a écrit dans ses deux encycliques, mais il l'a présenté avec la douceur de celui qui connaît son audience. Et là, il a dit ce qu'il voulait dire à travers quatre figures américaines. Donc il n'est pas arrivé comme quelqu'un qui venait donner une leçon, mais qui venait faire sortir le meilleur de chacun.
Mais en même temps, c'est un pape qui agace. Vous le savez, certains Américains croient que le pape a fait preuve d'un radicalisme social, très critiqué par les conservateurs et les milieux économiques notamment. Anne-Elisabeth, alors François, a-t-il été prudent dans ce discours phare pour ne pas bousculer ses détracteurs ?
Voilà, c'est ça. Je crois qu'encore une fois, il n'a pas besoin de prudence parce qu'il est libre, mais il a voulu présenter les choses de façon à ce que faire un. En fait, il a appelé chacun au meilleur. Et l'extrait que vous avez monté était très intéressant sur la règle d'or. Elle concerne tout le monde s'y retrouve. Et donc, il appelle chacun au meilleur, mais il dit à chacun des choses très fortes. Mais il ne rentre pas dans le débat idéologique. Il a dit des choses très fortes sur la famille, sur la vie, mais il n'est pas rentré avec les mots idéologiques dont on a l'habitude. Il a appelé à la transcendance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué l'image qui était devant nous. On avait deux personnages éminemment partisans derrière lui, le vice-président, président du Sénat, et vice-président démocrate, l'autre républicain, président du... Et tous les deux catholiques sincères. Et au milieu, l'homme qui les appelle à transcender leur division.
Oui, mais il y a parfois des déclarations ambiguës, oui. Notamment sur la question du mariage homosexuel. Oui. Bon, oui. Il n'a pas dit qu'il était contre, non. Mais il faut quand même ne pas compter qu'on inclut la famille.
En effet.
Vous voyez, donc il y a une certaine prudence quand même.
Oui, il y a une certaine prudence, oui. Mais qui est au service de faire avancer les choses. C'est un homme qui veut avancer, mais qui n'est pas un réformateur dans le sens « il a déjà la réponse ». Il met, ça c'est sa méthode depuis le début. On a vu comment il fait avec la curie, on a vu, alors bien sûr on n'est pas à l'intérieur, mais on voit que c'est un homme qui croit vraiment dans le processus. Et il met les gens en marche. Donc, s'il dit trop vite c'est ça ou c'est pas ça, il va casser le processus. Il veut vraiment mettre tout le monde en marche. Mmh.
Donc, quand même, pour vous, il aborde ces thèmes chers à l'Église, comme l'immigration, le changement climatique, la pauvreté, les injustices sociales et les excès du capitalisme.
Évidemment, et ce sont des termes, on attend avec impatience son discours à l'ONU. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a été plutôt léger, sur l'environnement. Ça sera beaucoup plus certainement développé aux Nations Unies. L'immigration, il a été sans équivoque et encore une fois appelant, on a vu les députés américains pleurant, appelant chacun à ramenant chacun à son expérience d'immigrer. Donc c'est un appel vraiment de. Mais ce que vous avez entendu, c'est quatre figures. Ça vous intéresse de regarder un peu ces quatre figures qu'il a appelées
Absolument, allez-y rapidement.
Brigitte. Alors, bon, il les a presque appelés les saints américains. Alors, avec Lincoln, il accentue la liberté. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est gauchiste, qui vient pour. Martin Luther King, c'est la liberté dans la diversité. Ça, c'est un thème magnifique de l'Église catholique. Liberté dans la diversité. Avec Dorothy Day, c'est la justice sociale, la primauté du pauvre. Et Thomas Merton, c'est le dialogue entre les religions qui vient de l'intérieur, d'une vie intérieure. Donc ce sont des messages très forts.
Alors c'est vous qui venez de lâcher le mot, gauchiste. Justement, est-ce que François ne court-il pas le risque d'être perçu comme un pape dit de gauche, un pape partisan, quelqu'un qui se range plus derrière, par exemple ici, la politique des démocrates ?
Alors, il a répondu lui-même à cette question plusieurs fois, mais en arrivant de Cuba, en disant « on me dit que je penche à gauche ». Mais non, moi ce que je dis, c'est la doctrine sociale de l'Église. Donc il veut transcender et je crois que les démocrates aussi pourraient se dire « est-ce qu'il n'est pas un peu républicain quand il parle de la famille ?» Donc on n'est pas dans un discours idéologique, on est dans un discours qui veut essayer d'aller au plus profond de la réalité vitale des choses.
En tout cas, de Cuba aux États-Unis, il s'agit d'un déplacement rempli d'images fortes. Exemple, après avoir été accueilli à sa descente d'avion par la famille Obama, le pape a quitté la base aérienne d'Andrews, près de Washington, dans une petite voiture, contraste avec les gros 4x4 qu'utilisent les dirigeants mondiaux. Les moments forts de ces derniers jours sur l'île avec Tatiana Mossou.
Mercredi à son arrivée, la Maison-Blanche a donc mis les petits plats dans les grands et le président américain en personne, Barack Obama, et toute sa famille étaient à la descente de l'avion, ainsi que les membres de la famille du vice-président catholique Joe Biden. En l'accueillant en grande pompe à la Maison-Blanche, Barack Obama, protestant, n'a pas caché son admiration pour ce pape des pauvres qui l'impressionne.
Vous nous rappelez que dans les yeux de Dieu, notre valeur en tant qu'individu et en tant que société n'est pas déterminée par la richesse, le pouvoir, le statut social ou la célébrité, mais par comment nous répondons à l'appel de Dieu pour relever les pauvres et les marginalisés.
Bain de foule, procession dans la fameuse Papa Mobile, bénédiction d'enfants dans le centre-ville, le pape a arpenté les rues de la capitale américaine devant des fidèles toujours sous le charme d'un pape pas comme les autres. La journée de mercredi s'est terminée par une grande messe tenue dans la cathédrale de Saint-Matthieu. Mais avant Washington, le pape François avait passé 72 heures à Cuba, où l'île compte une majorité de catholiques. Un voyage placé sous le signe de la réconciliation, visite pendant laquelle il est allé à la rencontre du peuple cubain, tout en prenant soin de ne pas froisser le régime castriste.
Nous sommes très fiers que le pape ait choisi notre région pour offrir sa bénédiction et pour nous transmettre toute cette joie ici à Santiago. C'est très important qu'il se rende sur une petite île comme Cuba et qu'il quitte notre pays avec un peu de notre histoire.
Le fait qu'il vienne de Cuba, où il a évité de critiquer le président Raúl Castro, ne fait qu'irriter un peu plus ceux qui jugent que ce pape est un marxiste déguisé ou un traître à la fois catholique qui serait trop souple sur la doctrine. Dès son arrivée, le souverain pontife a d'ailleurs déclaré espérer que les États-Unis lèveront l'embargo économique qui pèse sur l'île communiste de Cuba malgré le réchauffement entre les deux pays.
Merci bien, Tatiana. M'a rejoint sur ce plateau le père Jean-Claude Atusamuso de la Strategic Providence Foundation à Washington, D.C. Avec ce périple, père Atusamuso, le pape entend-il faire de ce rapprochement de deux anciens ennemis un exemple pour le monde?
Effectivement, ce que le pape est en train d'effectuer, c'est un élément qui est à concevoir comme un rapprochement. Mais on ne peut pas dire que c'est le pape qui est à la base de ce rapprochement. Le pape est en train d'achever l'élément que le président lui-même, Obama, a effectué. Nul n'a pensé qu'un jour, le Cuba allait être en relation avec les États-Unis. Et c'est avec l'initiative du président Obama que le pape est en train, effectivement, de féliciter le président Obama, mais aussi de continuer dans en ce sens de l'amour de deux pays voisins.
Mais passer d'abord par Cuba, un pays pauvre, cela veut-il dire qu'il ne voulait pas se rendre directement aux États-Unis, un pays capitaliste? Est-il exagéré d'interpréter cet itinéraire?
Le pape est en train de mener une vie de contraste, si on peut le dire, jusque-là. On est en train de voir qu'il considère le Christ comme son image. Donc il est trop attiré par le pauvre. Donc entre le pauvre et les riches, entre les forts et les puissants, lui il est plus attiré par le pauvre pour que les riches comprennent que le pauvre a une place, comme le Christ lui-même a considéré l'enfant comme étant le plus important dans la communauté de ses disciples.
Voilà, à venir en image les belles foules réservées au pape François dans la capitale américaine. Sans oublier les commentaires Facebook, Washington Forum revient après une petite pause.
Donne aux électeurs le contrôle de leur destin. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, ONG d'appui électoral aux démocraties nouvelles et émergentes, honore ce mois-ci l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, Ataoru Jega, pour son rôle dans les élections présidentielles nigérianes de 2015. Le professeur Jega, le gouvernement et le peuple du Nigeria sont ainsi reconnus pour un exemple de changement politique pacifique.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne
et donc nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les nôtres.
Vies africaines.
Vies américaines.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.
Vous et nous.
Vous et nous.
Ensemble.
Merci d'être toujours avec nous. Washington Forum est consacré à la visite du pape aux États-Unis. Jacques Aristide avec vous. Je vous propose maintenant quatre commentaires Facebook. Youssouf Wedrago de Yamoussoukro. Cela doit tout naturellement être à l'occasion pour le pape de rappeler aux Américains leur devoir de promouvoir l'égalité, la justice et l'équité des communautés et des valeurs humaines en tant que pays leader. Jean-Robert Kikanda de Kinshasa. Le pape, c'est l'homme qui fait l'unanimité malgré les clivages religieux. Alors, très Saint-Père, faites-vous entendre en face des grands du monde pour que l'oppression des pauvres cesse. Elie Manirakiza de Bujumbura, nous avons besoin de lui au Burundi. Alors, on a également Dumo Fourga de Douala, qu'il rappelle à son fils Obama que Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble. Donc, lui qui veut imposer l'homosexualité à l'Afrique, qu'il reste avec sa malchance là-bas aux États-Unis. Sur les larges avenues de Washington, des foules immenses ne se font pas prier pour acclamer le pape François à chaque passage de la Papa Mobile. Pour en parler, j'accueille Roger Muntu. Salut Roger.
Salut Jacques. C'est une véritable marée humaine qui s'est déversée mercredi dans Washington. Le Saint-Père a en effet célébré au Sanctuaire national de l'Immaculée Conception une messe aux accents très hispaniques hein, dans un pays où près de la moitié des catholiques sont des langues espagnoles.
Après s'être dégagé des embouteillages de la capitale fédérale américaine, le souverain pontife est arrivé à la basilique dans son papa mobile décapoté. Le véhicule a été rapidement entouré par une foule enthousiaste, impatiente de voir le pape, à défaut de le toucher. Une proximité que le Saint-Père apprécie. L'imposant dispositif de sécurité n'a pas pu empêcher le premier pape sud-américain de l'histoire de répondre à cette joie en saluant la foule.
Pendant un moment, il s'est retourné et j'avais comme l'impression qu'il m'avait regardé. C'était un moment spirituel. C'est comme si le ciel était ouvert. Je me sens guérie maintenant. Je ne sais pas de quelle maladie je souffre, mais je me sens guérie. Je me sens connectée. Je ne sais pas ce que cela veut dire.
Tout ce qu'il essaye d'accomplir est unique et bien. Et regarde, toute la ville est mobilisée pour lui.
Il n'est pas aussi politicien comme les précédents papes. Il est là pour tout le monde.
Voir sa simplicité, sa façon de voir les choses, il est beaucoup plus... c'est un pape du peuple, comme on peut le dire.
D'après le site internet du Vatican, le pape François se rendra du 25 au 30 novembre au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique pour sa première visite sur le continent africain. Pour Gary Ouellet, le souverain pontife a évidemment ses yeux tournés vers l'Afrique, étant donné que les Africains figurent parmi ses cardinaux.
Mais le cardinal Laurent Mosengo est parmi les gens qui décident. Voilà un fils digne d'Afrique qui a été élevé pour la première fois à ce niveau-là. Donc pratiquement, c'est ce collège des Italiens qui existait depuis longtemps que le pape Francis a brisé. Et voilà qui a fait entrer aussi des Africains dedans, dont un Congolais. Donc pour clairement dire que l'Afrique est concernée, il a le regard vers l'Afrique aussi, d'une manière ou d'une autre.
Comme vous savez, l'Afrique est toujours marginalisée. L'Afrique souffre. Nos ressources minières sont toujours utilisées par l'Amérique, toujours utilisées par l'Europe, toujours utilisées par la Chine. Qu'est-ce qu'il va faire pour cela? Qu'est-ce que l'Église fait pour prévenir cet esclavage économique que l'Afrique subit? C'est ça ma question pour le pape.
Voilà Jacques, effet versant, c'est à Washington DC.
En effet, Roger, merci bien. Et nous retrouvons nos invités, Anne-Elisabeth Giuliani, chercheure à Georgetown University, et le père Jean-Claude Atusamesso de la Jatukik Providence Foundation à Washington DC. Nous venons de le voir, il s'agit d'un pape manifestement populaire, un pape qui est à la tête d'une église forte de plus d'1,2 milliard de catholiques dans le monde. Aux États-Unis, ils sont près de 70 millions, mais d'après le Pew Research Center, la population catholique dans ce pays a connu l'une des plus fortes baisses ces dernières années. La part des catholiques est passée de 24 à 21% entre 2007 et 2014, perdant entre 1 et 3 millions de fidèles. L'Église catholique aux États-Unis a également été marquée par des cas d'abus sexuels, ce qui l'a amené à être la première à travers le monde à prôner la tolérance zéro. Alors, la popularité du pape est-elle adéquate pour inverser la tendance aux États-Unis, mais aussi peut-être ailleurs dans le monde, père Atusamesso?
Oui, la popularité de l'actuel pape est une popularité très montante, et comme vous le savez, il a été la personnalité la plus importante de 2014 au monde. Et ici même aux États-Unis, en contact avec des non-chrétiens, certains qui nous disent qu'ils ont la foi à devenir chrétien catholique à cause de ces papes, parce qu'ils sont très, 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 ils apprécient vraiment ce que le pape est en train de faire, et il est en train d'attirer de plus en plus de monde vers l'Église catholique.
Mais je ne veux pas offenser qui que ce soit. Certains disent que, bon, il est comme un grand-père. On l'écoute, on l'admire, mais en fait, on l'admire, mais on ne l'écoute pas vraiment.
Dire qu'on ne l'écoute pas vraiment, c'est trop dire, mais moi je pense qu'on l'écoute parce qu'on voit qu'il est en train de prendre certaines décisions qui sont en train de considérer les changements du moment, donc les changements de temps, mais en même temps qu'il est en contact avec la tradition de l'Église. C'est-à-dire qu'il ne s'éloigne pas trop de l'Église, mais en même temps, il ne déconsidère pas tout ce qu'il y a comme changement ou mutation actuelle.
Et Anne-Elisabeth, l'ouverture du pape François sur, par exemple, les divorcés remariés, l'avortement, la contraception et le mariage homosexuel, est-elle l'Église catholique à entrer dans la modernité?
Si vous me permettez de revenir à l'exemple de Cuba, vous avez parlé, son cœur va vers les pauvres. J'ajouterais, son cœur va vers les humiliés. Il comprend l'humiliation, il vient d'Amérique latine qui a été si humiliée, il comprend l'humiliation du peuple cubain. Et il commence par là, il va. Et je pense qu'avec toutes les éléments que vous avez indiqués, ce sont des éléments, l'avortement, les divorcés remariés, la contraception, des parties de l'Église, des parties du peuple qui pourraient se sentir, qui se sont sentus exclus et humiliés. Donc il y va pour, ce n'est pas une ouverture de changement de doctrine comme il l'a dit et répété, mais c'est une attitude d'ouverture des bras, d'aller chercher celui qui est loin et d'inclure et de guérir. Il a dit ce matin au Congrès quelque chose de très fort, nous sommes là pour apporter l'espérance et la guérison. Et c'est ça, c'est ce mouvement du pape.
Je vois
pape.
Que vous êtes bien émerveillé par ces paroles.
Mais c'est-à-dire que
le Père Atusamesu, cette ouverture, si elle est acceptée dans certaines parties du monde, elle ne l'est pas dans d'autres régions, comme en Afrique, par exemple. Alors, est-il vraiment possible pour le pape François de concilier toutes ces divergences, toutes ces régions et faire que l'Église ne perde pas ses membres?
En ce qui concerne le pape, vous devez le savoir, le pape c'est un père de famille. Mais c'est un père de famille qui n'est pas comme la famille biologique. C'est un père de famille qui doit gérer des enfants qui ont une certaine diversité culturelle. Alors par rapport à cette diversité culturelle, il y a certains de ces points qui seront facilement mieux reçus que dans d'autres. Et ça, on doit le savoir. Mais en même temps, on doit considérer que les décisions qu'il est en train de prendre, il les prend pour l'avancée de l'Église, pour la bonne marche de l'Église. Voilà pourquoi c'est que nous devons apprécier avec le nouveau pape.
Et nous savons que le pape François effectuera sa première tournée africaine en novembre 2015, dans moins de 2 mois. Il a planifié des déplacements en République centrafricaine, en Ouganda et peut-être aussi au Kenya. Alors Père Atusamesu, avec ce périple américain, le pape a-t-il donné le ton à son prochain voyage en Afrique?
Oui, le pape a donné son prochain signal. Parce que ce qui est important de voir, c'est que dans la visite du pape, ici aux États-Unis, le premier exemple, c'est ce que vous avez donné, où le pape vient dans un pays de grande technologie, tout est grand, de gros véhicules, mais il circule à son arrivée avec une petite voiture Fiat. Le pape qui arrive au Congrès, au Sénat, il s'adresse aux grandes personnalités de ces pays, et après il prend la décision d'aller manger avec les homeless, avec les pauvres. C'est vraiment ça que l'Africain est en train d'attendre du pape.
Alors pour revenir à sa visite aux États-Unis, il y a deux autres étapes importantes. À Philadelphie, il y aura notamment la rencontre mondiale des familles. Et à New York, il s'exprimera devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Anne-Elisabeth, à quoi faut-il s'attendre du pape lors de ses déplacements très rapidement?
Je crois la même cohérence. J'apprécie beaucoup ce que vous dites, cette compréhension de la diversité, de la multiplicité, de la réalité des conflits et d'essayer de créer un mouvement. Hier, son message de la messe de canonisation était toujours aller de l'avant. Et je crois que ce qu'il fait avec des petits pas qui paraissent petits mais qui transforment.
Alors Benoît XVI, le prédécesseur du pape François, est venu aux États-Unis en avril 2008, mais certains vous diront que cette visite n'avait pas vraiment marqué les esprits. Père Atusamesu, pourquoi le périple du pape François est-il important et que va-t-il changer?
Oui, effectivement, personnellement, j'ai eu à rencontrer le pape Benoît quand il est venu. J'étais avec des amis à la Maison-Blanche quand il était reçu par le président Bush. Et il y a une grande différence entre l'arrivée du pape Benoît et l'arrivée du pape François. Permettez-moi de le dire, le pape François vient chez lui. C'est un Américain. Donc c'est un pape américain qui vient sur le terrain américain. Et en même temps, c'est un pape qui agit comme le pauvre et qui comprend le pauvre parce qu'il a vécu avec le pauvre.
Là, je vois
le
pape Benoît, vous êtes en train de prendre parti entre deux papes.
Non, 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 mais le pape François était plus, nous qui avons été au séminaire, nous savons qu'il a plus été comme le grand intellectuel qui était dans le domaine de recherche, qui était non loin de la réalité palpable. Mais en tant que pape, il a quand même bien agi, mais est-il qu'il y a une différence entre celui qui a passé son temps à côté du pauvre et celui qui a passé son temps dans les recherches?
En deux mots, Anne-Elisabeth, la même question.
La même question par rapport à... Je pense que l'engouement ou par rapport à Benoît XVI. Benoît XVI, sa visite a été très belle, ça a été une grande réussite qui a surpris tout le monde. On ne s'en souvient peut-être plus parce qu'on a la mémoire courte, mais ça avait été une visite, quand on pense à ce qu'il a dit sur les immigrants, la force, et là l'Église, les évêques ont changé à ce moment-là.
Et voilà, le temps passe trop vite. Je remercie mes invités, Anne-Elisabeth Giuliani de Georgetown University et le père Jean-Claude Atusamesu de la Jatukik Providence Foundation. Un petit clin d'œil à nos confrères de Carrefour TV. Merci, je vous retrouve la semaine prochaine depuis New York. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.